Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne, coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Inégalités salariales, difficultés à avoir accès aux postes à responsabilité, violences subies. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l'occasion de faire le point sur la situation des droits des femmes dans les pays de l'Union européenne. Récemment, une analyse de la Confédération européenne des syndicats basée sur les données d'Eurostat souligne qu'au rythme actuel où vont les choses, l'écart des salaires femmes-hommes au sein de l'Union européenne ne sera pas comblé avant le siècle prochain, en 2104 pour être plus précis. Cet écart n'a en effet diminué que de 1% au cours des 8 dernières années, ce qui permet à la Confédération européenne des syndicats d'affirmer qu'il faudra encore attendre 84 ans pour parvenir à l'égalité. À l'occasion de cette journée de sensibilisation, cette journée des droits des femmes, nous vous proposons aujourd'hui de faire notamment le point sur la situation générale de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne avec Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne depuis 2019, vice-présidente du groupe des Verts au Parlement européen, vice-présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Nous profitons également de cet entretien pour revenir sur les questions de l'état de droit, notamment en Hongrie. Dossier suivi par Madame Delbos-Corfield également. Bonjour Madame Delbos-Corfield.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un outil de mesure conçu par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes donnait une note de 67,9 sur 100 en termes d'indice d'égalité des genres à l'Union européenne. Une note qui n'a progressé que de 5,9 points en 15 ans. Comment expliquez-vous que la situation générale n'évolue ou évolue si peu alors qu'il semble que cette question d'égalité entre hommes et femmes, il y a une certaine forme de prise de conscience, autant au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne?
Ça me paraît de manière assez logique. L'histoire montre que les périodes de prise de conscience et les périodes après d'amélioration des choses sont malheureusement pas du même ordre et que du coup tout va très lentement. Donc oui, il y a une prise de conscience. Dans les faits, on change pas des centaines d'années, des milliers d'années d'histoire qui se sont construites sur des formes de domination patriarcale, qui s'inscrivent dans tous les domaines, qui incluent toutes les sphères de la société. Et du coup, c'est assez logiquement lent. Il y a un refus de mettre en œuvre parfois par les gouvernants dans les différents États membres. D'abord parce que ces gouvernants sont encore majoritairement des hommes blancs qui appartiennent souvent à une élite qui n'a pas connu de difficultés. Donc entre la théorie et la pratique, il y a souvent une distance qui est assez importante. Aujourd'hui, moi j'insiste souvent sur l'importance d'avoir de la data, des données, parce que beaucoup d'hommes vont se dire pas sexistes, beaucoup d'hommes vont se dire féministes, même parfois de plus en plus. Et pourtant, après, c'est une autre chose de voir comment la distribution des endroits de pouvoir, la distribution des rôles importants, la distribution du pouvoir économique, la distribution des compétences dans les actions. Il y a là une marge qui est immense. Par ailleurs, on peut constater qu'il y a aussi des États membres de l'Union européenne qui ont même régressé. Alors c'est vrai qu'on pointe le doigt plus fortement sur la Hongrie et la Pologne, où réellement il y a des telles atteintes aux droits et aux libertés de manière générale que évidemment les femmes comme toute autre forme de population en est victime. Mais de manière générale, il y a aussi autour de ces pays-là une espèce de contamination de cette détérioration des droits et des libertés. Et du coup, c'est vrai qu'on régresse peut-être un petit peu parfois dans certains pays autour de la Hongrie et de la Pologne sur la question des femmes.
Alors, une des conséquences du Covid et dont on parle peu, c'est qu'elle a amplifié les inégalités existantes entre les femmes et les hommes.
Evelyn Regner, députée européenne autrichienne, disait même que 9 licenciements sur 10 au Portugal concernaient des femmes durant la période du Covid. Comment vous expliquez cette situation ?
Ça s'explique parce que il y a des inégalités structurelles et que de manière générale, les crises, elles ne font toujours que renforcer les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes, entre les couleurs, entre les pauvres et les riches, etc. Ça, les moments de crise sont toujours des moments qui exacerbent les inégalités. C'est particulièrement vrai de cette crise Covid parce qu'effectivement, en plus du fait de sa nature, elle a eu des impacts, pas plus particulièrement sur la question du genre, comme vous l'avez dit, dans plusieurs domaines. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, les domaines qui ont d'abord été atteints, c'est beaucoup les domaines des services, c'est tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est ménage dans les entreprises, etc., qui sont puisque les gens n'avaient plus travaillé, ils télétravaillaient, etc. Donc, évidemment, tout ça, on est en train de parler de tous ces postes qui sont précarisés, qui sont des postes extrêmement fragiles, où les femmes sont en surnombre par rapport à des tas de postes où l'arrêt économique a été compensé d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas eu de compensation dans beaucoup de ces domaines-là. Par ailleurs, il y a une charge de travail immense pour d'autres femmes parce qu'effectivement, elles étaient dans tout ces métiers qui ont été en première ligne, les métiers du soin, les métiers de la médecine, en plus de la médecine de première urgence, les infirmières, les soins aux personnes âgées, etc. Et puis, la pandémie, elle a aussi eu un terrible effet, encore une fois, en termes d'injustice de vie, puisque pendant la période de la pandémie, les femmes ont, en plus de leur travail, encore plus fait à manger à maison, encore plus suivi le travail scolaire des enfants quand les écoles se sont arrêtées, encore plus entretenu la maison. Un exemple que je donne régulièrement, c'est que les grandes revues scientifiques se sont aperçues pendant la période du printemps 2020, en plein cœur de la pandémie, qu'elles recevaient moins de contributions de chercheuses femmes et plus de contributions de chercheurs hommes, ce qui veut dire que pendant la pandémie, les hommes en ont encore profité pour gagner du temps pour eux et pouvoir encore plus élaborer, penser, réfléchir, travailler. Les femmes ont encore perdu du temps, même dans des postes qui sont, on peut penser que la femme chercheuse a une forme de puissance, c'est une femme qui s'affirme et qui a un poste où elle peut se permettre d'eux, et bien même dans ces postes-là, la période de pandémie a été terrible. Donc sur tous les aspects, oui, les femmes, on a aussi beaucoup entendu parler des violences conjugales qui sont exercées du fait des huis clos. Donc effectivement, la pandémie a montré de manière encore plus forte combien ces inégalités structurelles sont extrêmement fortes et que dès qu'il y a une petite crise, un petit événement terrible, c'est encore plus dramatique pour les femmes et encore plus pour les femmes vulnérables.
Autre sujet d'inquiétude, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est celui du recul du droit à l'avortement, notamment en Pologne. La Cour constitutionnelle polonaise ayant annoncé en octobre 2020 une nouvelle restriction du droit à l'avortement, pourtant déjà très limitée dans ce pays, qui aboutit à une quasi-interdiction de l'avortement. Que peut faire l'Union européenne pour encourager ou en tout cas soutenir ces femmes polonaises?
Alors effectivement, le recul de l'avortement, du droit à l'avortement en Pologne est terrible. On est arrivé à un tel nombre d'exceptions que ça va concerner très 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 peu de femmes et notamment des femmes qui auraient subi des traumatismes ou qui auraient des enfants mal formés sont même plus incluses là-dedans. Donc il en reste quasiment plus qui pourront accéder aux avortements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux choses. La première chose, c'est que sur toutes ces dégradations qui ont lieu en Pologne et en Hongrie, les États membres ne sont pas assez sérieux, ne sont pas assez courageux. Le Parlement a régulièrement pris position, même des gens qui étaient proches des gouvernements hongrois et polonais ont su parfois dire ce qui se passe maintenant est devenu inadmissible. Et maintenant, on n'a pas le suivi de nos décisions ici par le Conseil, c'est-à-dire par les États membres, par les gouvernements. Les gouvernements ont, pour des raisons diplomatiques, économiques, ou simplement par lâcheté, depuis des années, laisser faire, et ça s'aggrave dans les deux États, et ça, c'est une première forme de réaction qu'il devrait avoir, et ça concerne de manière générale les droits et les libertés. Sur la question plus fondamentale des droits sexuels et reproductifs, moi, je suis de ces personnes qui sont assez convaincues qu'aujourd'hui, un certain nombre de droits sexuels et reproductifs, dont l'avortement, devrait devenir compétence européenne et ne plus être compétence nationale. Ça reste à la discrétion des États membres depuis trop longtemps. Et si on parle d'égalité des genres, si on parle du bien-être des femmes qui doit être équivalent à celui des hommes, il est totalement anormal, à mon sens, que l'avortement reste quelque chose qui est sous compétence nationale, ce qui fait qu'on peut beaucoup critiquer la Pologne, on peut s'inquiéter de ce qu'elle fait vivre aux femmes, ce qui est vécu par les femmes de ce pays-là, mais en réalité, on a peu de capacité à contraindre, puisque c'est une compétence nationale, la question de l'avortement pour l'instant.
Alors l'année dernière, j'aimerais qu'on conclue cette partie avant de faire une petite pause musicale. L'année dernière, en mars 2020, la Commission européenne a adopté une stratégie en faveur de l'égalité homme-femme qu'on appelle 2020-2025, qui vise à servir de fil conducteur aux actions de l'Union européenne en matière de lutte pour l'égalité entre les sexes. Déjà, qu'en est-il de cette stratégie? Si vous pouviez nous la présenter un peu et nous dire un peu ce que vous en pensez, vous, mais aussi votre groupe politique, les Verts, au Parlement européen. Est-ce que ça va dans le bon sens? Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Qu'est-ce qu'il y a à laisser? Est-ce que c'est insuffisant? Et nous expliquer un peu cette stratégie.
Oui, c'est, encore une fois, l'Union européenne reste relativement prescriptive de manière symbolique, de manière morale dans ce domaine-là. Beaucoup de choses restent de l'ordre des compétences nationales. Cette stratégie, elle est importante parce qu'elle a une valeur symbolique, parce qu'il était important que pour une fois, il soit dit qu'il était nécessaire d'avoir une stratégie pour l'égalité des genres. Si le Parlement de l'Union européenne a depuis longtemps une commission à l'égalité des genres, ça n'est pas le cas des autres institutions. À la commission, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est à l'égalité des genres. Elena Dalli, une commissaire, jusqu'à présent, c'était un élément qui était compris dans d'autres portefeuilles, mais il n'y avait pas quelqu'un spécifiquement sur cette question-là. Et au niveau du conseil, on le sait, il n'y a pas de conseil des ministres à l'égalité des femmes et à l'égalité des genres, qui est une demande de ce Parlement, d'ailleurs, une initiative que ma collègue Irène Tolleret, une Française de Réunion, a lancé, qui est une très bonne initiative. Il faudrait que, de même qu'il y a des conseils des ministres et des conseils des ministres des Finances, conseils des ministres de l'Environnement, il y a ce type de conseils. Donc, c'était important qu'il y ait une stratégie, qu'il y ait une parole forte. Elle contient des mots qui sont importants pour nous. Elle parle bien d'égalité pour les Verts, elle parle bien d'égalité des gens et pas simplement d'égalité des femmes et des hommes. Elle parle bien d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'elle prend en compte le fait que certaines femmes subissent encore plus de discrimination que les autres et que plus on est une femme vulnérable, une femme racisée, une femme handicapée, une femme LGBTQI, une femme âgée, eh bien encore plus de discrimination s'impose à nous. Et elle donne des grandes directions dans termes économiques, sociaux, des droits des femmes qui sont, voilà, en termes de représentation politique dans les postes de pouvoir, etc., qui sont importantes. Donc globalement, c'est une stratégie dont on peut être satisfait. Concrètement, encore une fois, après, on est dans un domaine qui est vraiment de l'ordre de lancer des grandes directions, de mettre une pression morale, une pression symbolique, mais c'est aux États membres ensuite d'appliquer un certain nombre de choses. Et là encore, ça aura l'avantage d'être un recours. Si jamais une femme se considère discriminée dans son État membre pour une raison ou pour une autre, elle pourra utiliser cette stratégie auprès de la Cour de justice européenne pour dire j'ai été discriminée. Mais on est bien dans des recours et dans du prescriptif, on n'est pas dans de la politique qui est immédiatement une implication concrète dans les États membres.
Je vous ai proposé de choisir un titre musical, une chanson à écouter pendant l'émission et votre choix s'est porté sur Anne Sylvestre avec le titre Les Frangines. Pourquoi ce choix ?
D'abord, Anne Sylvestre est une chanteuse que j'écoute énormément et depuis très longtemps. C'est une chanteuse déjà qu'écoutait ma mère. Pour beaucoup de gens, Anne Sylvestre est une chanteuse pour enfants. Pour moi, c'était une chanteuse pour adultes. C'était une chanteuse féministe. C'est comme ça que ma mère l'écoutait. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup bercé mon enfance. Et il y a beaucoup de chansons de féministes d'Anne Sylvestre qui sont connues. « Non, tu n'as pas de nom »,« Sorcière »,« Une sorcière comme les autres », etc. Celle-ci, c'est une qui est moins connue et qui est pourtant à ma préférence et qui est une chanson qui, je trouve, a une importance qui est importante parce que elle rappelle aussi la nécessité d'une solidarité entre femmes qui n'existe pas toujours mais qui me semble être aujourd'hui extrêmement présente. Je trouve qu'une des évolutions positives de ces dernières années, et notamment durant la pandémie, c'est qu'effectivement, il y a eu dans beaucoup de nos pays, et particulièrement en France, comme vous en avez parlé au tout début, une prise de conscience sur plusieurs sujets, les violences sexuelles, les violences conjugales, les violences tout court à l'égard des femmes, et combien il fallait se croire, avoir confiance, ne pas remettre en question la parole des femmes. Et là-dessus, il me semble qu'en termes de représentation dans la société, on a beaucoup beaucoup évolué ces deux dernières années, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Merci. On va donc écouter Anne Sylvestre, Frangine.
Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes. Des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine. Ça nous aurait gagné du temps, main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Merci Madame Delbos-Corfin pour ce choix. J'aimerais passer à un autre sujet et revenir avec vous sur la Hongrie et la question de la liberté de la presse, notamment après la suppression de la fréquence d'une radio très connue à Budapest, Klub Radio, notamment pour ses positions anti-gouvernementales. Vous qui suivez pour la Commission Liberté Civile la situation en Hongrie, comment analysez-vous la situation de la liberté de la presse et plus généralement de l'état de droit en Hongrie ?
La situation de la presse en Hongrie est une des situations les plus catastrophiques de l'Union européenne, et c'est pas simplement que moi qui le dis, hein, c'est le calcul de Reporters sans frontières, c'est un calcul d'un certain nombre d'autres associations qui mettent la Hongrie très bas sur cette question-là. C'est quelque chose qui c'est une quasi inexistence maintenant de médias libres qui a été obtenue grâce à des effets qui ne sont pas des effets traditionnels qu'on connaît dans beaucoup d'États, qui sont pas il n'y a pas de journalistes en prison en Hongrie. Il n'y a pas, en théorie, en tous les cas, elles ne sont pas dites. On n'entend pas parler de pression, d'intimidation physique ou de pression de ce type-là. Il y a un système très efficace et d'une autre nature qui est l'étouffement financier. Depuis des années, des oligarques rachètent systématiquement tous les journaux en Hongrie. tous ces oligarques sont des proches de Viktor Orban, et une fois qu'ils ont pris ces journaux, ces radios, ces sites internet en main, ils imposent un programme 100% pro-gouvernemental. Il n'y a pas d'obligation en Hongrie comme on peut avoir en France d'un temps de parole pour l'opposition, donc il y a des télés, des radios qui n'ont aucun temps pour l'opposition du tout, ou de manière minime, et souvent en plus pour rire de l'opposition. Il n'y a aucune obligation d'État effectivement au pluralisme, et puis encore une fois, tout est dans le giron de Viktor Orban et de ses proches. Le Premier ministre Viktor Orban a créé il y a quelques années, avec l'aide de son gouvernement, une espèce de fondation un peu opaque qui s'appelle la KESMA. Et trois jours après, un petit peu par une coïncidence assez incroyable, la plupart de ces oligarques ont redonné tous ces médias qu'ils avaient achetés quelques années auparavant à cette fondation. Et maintenant, c'est cette fondation qui gère en direct tout cela. Et c'est très opaque. Effectivement, il reste quelques médias libres. Il restait cette radio, c'était une des dernières. Sa fréquence a été arrêtée, il n'y a pas vraiment de bonne justification. Évidemment, ils ont été en appel, mais en appel, comme la justice n'est plus indépendante en Hongrie, ben, l'appel est perdu. Et puis voilà, c'était quelque chose que la population hongroise concernée, celle qui s'implique, s'y attendait, puisque cette radio était tellement libre que ça étonnait tout le monde qu'elle existe encore. Bon, le jour où il a fallu renouveler la fréquence, elle n'a pas été renouvelée. Il y a aussi un site internet qui était extrêmement regardé, qui s'appelait index.eu, qui était vraiment un des sites d'information les plus regardés, les plus connus, qui a été racheté en tout début d'année scolaire. À l'automne de 2020, par là encore, un oligarque proche de Orban. Et puis, progressivement, dans les mois qui ont suivi, licenciement et démission de la rédaction en chef et d'un certain nombre de journalistes s'est suivi. Aujourd'hui, ça n'est plus considéré comme un média indépendant. Voilà. Et de manière générale, les médias vivent beaucoup à travers des publicités d'État, des achats d'encarts publicitaires d'État. Et évidemment, l'État n'achète aucun encart publicitaire dans les médias indépendants et donc, progressivement, les asphyxie comme ça financièrement. Par ailleurs, il commence aussi probablement, on se doute qu'ils commencent aussi à acheter peut-être des médias dans les pays voisins pour amplifier encore cette concentration des pouvoirs et des médias dans les mains de quelques oligarques autour de Viktor Orban. Qu'est-ce que peut faire l'Union européenne ? Eh bien, c'est assez simple. Pour le coup, on n'est pas là dans le domaine du droit, on n'est pas là dans le domaine de l'humanisme, etc. On est dans un domaine qui est tout simplement celui de la compétition libre. Et indépendante. Et là, on voit que très concrètement, il y a un certain nombre de... Si on voulait creuser, on verrait assez facilement que l'État a pris en main les médias et qu'il n'y a plus d'indépendance des médias et qu'on n'est plus, du coup, dans un domaine de compétition libre. Donc, il y a des complaintes qui ont été faites au niveau du droit à la concurrence de l'Union européenne. Ça a tardé pour que la Commission s'en préoccupe. Il semblerait que maintenant la Commission commence à s'en préoccuper, mais pendant très longtemps, on s'est un peu interrogé sur l'indulgence de la Commission à cet égard-là. Donc là, il y aurait vraiment à faire une investigation, une enquête et à regarder de près, parce qu'il est très probable qu'on n'ait plus dans nos règles de marché européen. Et pour le coup, là, c'est vraiment du domaine pur et simple de l'Union européenne et ça devrait être très facile à sanctionner.
On dit aussi que... La mairie de Budapest, hein, qui est une mairie qui n'est pas gérée par des personnalités du Fidesz, hein, du parti de Viktor Orban, mais par un maire vert et une coalition d'opposition. On dit aussi qu'elle est aussi asphyxée financièrement. Est-ce que vous pouvez confirmer ce point de vue? On dit aussi qu'elle a du mal à retrouver des financements d'État ou des financements européens.
Oui, alors il y a deux biais. Le première chose, c'est que, ben, évidemment, comme nos collectivités françaises, les collectivités hongroises reçoivent un certain nombre de subsides de l'État hongrois. C'est d'abord l'État qui reçoit les impôts et qui ensuite redistribue. Dès que la ville de Budapest a changé et passé aux mains de l'opposition, puisque le maire est effectivement un maire d'opposition et probablement d'ailleurs le futur candidat opposé à Viktor Orban aux élections présidentielles qui vont arriver là, de Premier ministre qui vont arriver, immédiatement l'État a coupé un certain nombre de subventions habituelles qui étaient envoyées à la ville de Budapest, qu'elle n'a pas coupé évidemment à toutes les communes alentour. Par ailleurs, elle a changé aussi dans les semaines qui ont suivi un certain nombre de lois. Donc le droit de stationnement n'a plus été reversé aux communes mais est parti reversé à l'État. Voilà, il y a un certain nombre d'impôts locaux qui en un mois ou deux mois sont devenus des impôts nationaux. Et effectivement, pareil dans les plans de relance. Actuellement, les États sont tous en train de présenter leur plan de relance au niveau européen pour profiter de ce fonds de relance que l'Union européenne a créé. Effectivement, il semblerait que la Hongrie se prépare à proposer un plan de relance qui inclut extrêmement peu Budapest, où pourtant, comme dans beaucoup d'États, se concentre évidemment la population, les populations les plus vulnérables, où il y a eu le plus de cas de Covid, etc. Donc en plus, il y a vraiment un refus d'agir pour la population.
J'aimerais terminer cette émission sur un autre sujet, c'est le Royaume-Uni. Vous connaissez bien ce pays, vous y êtes même né, je crois. Qu'en est-il maintenant de cet accord post-Brexit ? On voit déjà les premiers accros, notamment autour de la frontière entre les deux Irlandes. Est-ce que ces accros qui commencent à arriver autour donc, de ces contrôles aux frontières en Irlande, mais aussi sur d'autres sujets, est un risque finalement que le Parlement n'approuve pas cet accord commercial et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ?
J'avancerai pas qu'il y a un risque que le Parlement n'approuve pas... cet accord, malheureusement, le Parlement est connu pour beaucoup hausser le ton, comme sur les questions de budget pluriannuel, etc. Et puis, au dernier moment, dans la plupart des groupes, on obéit aux États membres auxquels on appartient quand même, et comme les dirigeants nous demandent de voter, on finit par voter. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait un risque. Qu'il y ait un risque que, de manière plus globale, cet accord soit extrêmement fragilisé, et ça, pas simplement par le biais du Parlement, mais parce que, à la Commission, parce que les autres États membres vont commencer à s'inquiéter, oui. Qu'il y ait un risque que nous soyons un certain nombre à s'abstenir ou à ne pas voter pour cet accord parce qu'on s'interroge de plus en plus malgré notre conviction qu'il faut un accord parce que le no deal, c'est probablement une des choses les pires qui peut exister pour la population britannique. Mais aujourd'hui, cet accord est tellement insatisfaisant sur un certain nombre de sujets démocratiques que c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent. J'ai pas encore pris une décision. Je passe beaucoup de temps en ce moment à consulter les citoyens européens qui habitent au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui habitent dans l'Union européenne, effectivement les citoyens d'Irlande du Nord. La question de la protection des données est une question qui m'inquiète beaucoup parce que l'Angleterre est connue pour faire circuler beaucoup d'informations aux États-Unis où il y a des vrais programmes de surveillance de masse et que du coup ils ne répondraient plus a priori à nos règles de protection des données. Et puis il y a beaucoup d'inquiétudes pour les décisions qui seront prises dans les années qui viennent. En fait,
cet accord finalement laisse quand même beaucoup d'incertitudes si on regarde attentivement.
Il laisse beaucoup d'incertitudes. En fait, quand on fait un accord avec un État, un autre territoire, ça prend en général entre 10 et 15 ans. Et ça commence d'abord par, c'est quelque chose que le Parlement a obtenu ces dernières années, ça commence par une évaluation de comment les droits humains, de comment les droits environnementaux, les standards sociaux, etc. sont mis en place dans ce territoire-là. C'est le cas pour tous les accords commerciaux qu'on fait. Voilà. Évidemment, dans le cas du Royaume-Uni, on a considéré à juste titre, probablement légitimement, qu'on n'avait pas besoin de faire cette évaluation puisqu'ils viennent juste de sortir et normalement ils sont toutes nos règles. Alors ils font des grandes déclarations pour dire qu'ils vont plus suivre nos règles sociales, nos règles environnementales, etc. Mais enfin, nous, on est obligés de partir de la base qui est que pour l'instant, ils les appliquent. Et donc, pendant les 4 ans qui viennent, en gros, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et c'est que dans 4 ans qu'on verra s'ils ont bien continué sur la bonne route. Ça veut dire que pendant ces 4 ans, il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de choses peuvent se passer. Et en ce qui concerne le statut très particulier de l'Irlande du Nord, c'est difficile de savoir comment on aurait pu faire autrement, mais pour de vrai, c'est dramatique. C'est un statut totalement hybride. On ne sait pas où se situe la frontière. On ne sait pas si un citoyen d'Irlande du Nord est un citoyen européen ou pas. Certains, du fait qu'ils sont irlandais, ont immédiatement demandé la nationalité européenne. D'autres non. Donc, il y aurait l'existence. Les associations pensent qu'il y a peut-être l'existence de 17 statuts différents dans les prochaines années en Irlande du Nord. Il y a vraiment la peur de la réactivation de problèmes aux frontières, de problèmes de passages illégaux, clandestins, etc., de produits, puisque Effectivement, on ne sait pas trop quand et où les contrôles seront faits. Est-ce qu'ils seront faits en mer? Est-ce qu'ils seront faits à la frontière? L'Angleterre n'arrête pas, en plus le Royaume-Uni n'arrête pas de bafouer un certain nombre d'exigences qu'il s'était données par rapport à l'Irlande du Nord, ce qui inquiète beaucoup les citoyens d'Irlande du Nord. Et donc, avec ces problématiques à la frontière entre Irlande, l'ancienne frontière entre Irlande du Sud et Irlande du Nord, qui ne devrait plus exister, mais qui va peut-être exister de fait, on a peur aussi d'une réactivation des violences. Donc oui, le futur de l'Irlande du Nord est un futur qui nous préoccupe beaucoup.
Ben merci Madame Delbos Corfield pour nous avoir consacré ce temps et répondu à toutes nos questions. Je rappelle donc que vous êtes députée européenne du groupe des Verts, vous êtes même vice-présidente du groupe des Verts à LE au Parlement européen et que vous êtes vice-présidente de la commission aux droits des femmes et à l'égalité des genres. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.